présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. De moi, il préfère beau lieu. Vous ne voulez pas me donner justice de suite pour des histoires d'argent, d'affaires et moi et mon honneur. Elle lui dit, calme-toi et fais-lui confiance. Il m'a dit qu'il ne ferait quelque chose. Bien au contraire, il ne fera quelque chose, mais plus tard, ici, dans l'intérêt général. Oui, calme-toi. Il faut lui faire confiance. Il m'a pas dit qu'il ne ferait rien. Bien au contraire. Mais plus tard, ceci dans l'intérêt général. Et la porte facile vers lui. Il me dit, bon, je te fais confiance. Il me dit, j'aiderai à te venger s'il le faut. Merci. Pendant ce temps, chez lui à Paris, Beaulieu, lui aussi, roi du noir. Depuis la mort de sa femme, il ne pense qu'à se venger. Il veut tuer Cliff et Terme, qui d'après lui, sont les responsables de sa mort. Beaulieu réfléchit et se dit que Cliff a un ami très intime, peut-être trop intime, et que ne peut pas se venger directement en attaquant Cliff de front, parce que Cliff est l'ami tremblant, alors il va se venger en s'attaquant à Didier. l'idée qu'il n'y a rien, et qui est beaucoup dans le corps de Pif. Pif, va voir Judith pour vous parler du meurtre de Brigitte. Elle le reçoit au salon. Voit qu'il va mieux. Il demande, ta mère est ici? Et il dit, oui, et Didier aussi. Ils sont formidables. Comme toi aussi. Sans vous, je serais perdu. Elle l'embrasse sur le front et lui dit, tu es un ange. Et toi, une déesse. Elle lui demande, laquelle? Aphrodite ou Athéna? Il lui dit, je crois c'est que tu dois être un mélange des deux. Elle lui fait, merci. Il va beaucoup mieux et elle en est heureuse. Il lui dit, tu m'as pas dit que Brigitte était morte dans ton allée? Elle lui dit, je ne voulais pas te parler de ce drame, mais oui, le hasard l'a voulu. Il lui demande, et que faisait-elle dans ton allée? Elle lui dit, comme je savais que tu étais en voyage, alors je lui ai, pour la distraire un peu bien entendu, je l'ai invitée chez moi pour passer la soirée entre femmes. Et là, il lui dit, tu savais que Madame Beaulieu avait été victime le même jour et presque à la même heure aussi d'un accident près de chez toi? Elle lui dit, je l'ai appris que plus tard par les journaux. Il lui dit, moi je crois que Madame Beaulieu a tué Brigitte. Puis elle est sortie et a été accrochée par un chauffard. Il lui dit, tu as peut-être raison, j'y ai moi-même un peu pensé, mais la police n'a rien trouvé. Il lui dit, moi je suis sûr que c'est Beaulieu. Ma mère a été voir Franblanc. Et lui aussi semble le penser. Plus tard, il me vengera, c'est ce qu'il a dit. Elle lui dit, s'il te l'a dit, c'est qu'il le fera. Détends-toi et pense à l'avenir. Fais-le pour Brigitte. Il lui dit, je vais essayer. Mais tant que ce saligaud n'aura pas payé, je ne pourrai pas. Ne pense plus à lui. Il n'en vaut pas la peine. Et puis, il est seul, plus d'enfants, plus de femmes. C'est lui qui l'a voulu. Oh, détends-toi. Elle lui sert à boire. Tiens, bois. Après une semaine, la mère de Cliff lui dit, je vais être obligé, c'est de rentrer. Didier lui dit, moi aussi, et j'ai bien réfléchi, je crois c'est que je vais m'engager, partir pour l'Afrique. Cliff lui demande, pourquoi? Didier lui, parce que je ne fais rien. Alors, autant servir à quelque chose d'héroïque, et puis tous les autres y vont. Cliff lui dit, tu es fou, et c'est très dangereux, tu vas risquer ta vie pour rien. Didier lui dit, ça forme un homme. Cliff lui dit, tu es idiot. Didier lui dit, toi tu y es bien allé, oui, mais pour mon travail, mais toi, tu n'es pas obligé d'y aller. Didier lui dit, ne fais pas de soucis. Et puis, tu viendras me secourir si j'ai des ennuis. Ils s'embrassent. La mère embrasse son fils. Allez, au revoir. Il lui dit, merci pour tout. Et fais changer d'idée, Didier. Et ils sont partis. Et Didier, au grand chagrin de sa mère, s'est engagé et parti pour l'Afrique comme soldat.
vu?
Oui, capitaine.
Ça devrait te donner un parfait défilement et un bon angle
là-bas,
de tir sur cette mitrailleuse. Respecte les consignes de tir.
Dans une guerre qui est très dure, terrible, entre les modernes et les intégristes, barbares. On se bat souvent corps à corps.
Il y en a 27.
On se guette. On se bat. Avec des barbares à moitié nus qui se ruent sur les soldats. Avec des haches, des couteaux, des hachettes, des bombes improvisées. Ils sont fous et cruels. Oui, cruels. Ils savent couper les têtes d'un geste brusque.
Collez sur
bâbord,
collez sur tribord. Avancez vite et évitez les trous de mortier. Protégez vos armes du sable. Je veux des actions.
Et non pas de rien.
On se retrouve sur la plage.
Que Dieu est avec eux. Et ils aiment la guerre. Notre flèche les rend terribles. En gicle, les corps tombent, les corps tombent. Eux aussi se font tuer à coups de mitraillette. Rien ne les freine. Ils n'ont peur de rien. Ils aiment la guerre, ils se battent. Ils aiment la guerre, ils se battent et le sang. Pour eux, c'est vivre. Ils se sentent vite en se battant. Ils se sentent vivants. Les Occidentaux, eux, se battent. Pas de la même façon. Ils ne sont pas fanatiques, ni souples, ni forts. Et ils ne donnent pas leur pardon de leur personne à une foi. Et puis, ils n'aiment pas la guerre pour la guerre. Ils n'ont pas besoin pour exister de se battre. Malgré leur technologie, c'est les rangs plus faibles. Parce qu'ils ont même besoin de tuer pour tuer. Et puis, il y a aussi la chaleur. La grande chaleur, le manque d'eau, et lorsqu'il y en a, il n'est pas potable. Alors les soldats sont ravitaillés par les petits pourvois de bouteilles d'eau. L'eau potable et fraîche, en plus de la nourriture pourvois, ils reçoivent aussi de la nourriture. Parce qu'il manque de tout dans ce pays, dans ce continent. Et puis, hein, ce n'est pas sain. Pour ce qui est des soins, Ricain, c'est parvenir des médicaments, du matériel, des hôpitaux se fabriquer, à monter en un rien de temps. Avec eau, électricité, salle d'opération, etc. et tremblant des hélicoptères pour amener les blessés chez Ricain en France.
Dégagez la plage, faites de la place pour les autres.
Les navires sont réquisitionnés. Les blessés graves sont ramenés aussi chez Ricain. On ne sait jamais. On a besoin pour des greffes et le reste. Ça ne peut pas servir pour les greffes. Ça a été là dans les usines Confort Aliments Chiens. Et chat.
Je suis touché, putain!
Armez ça! Bataillon des milices, capitaine! Je dois dégager ces obstacles vers des trous pour les tanks!
Après la bataille, des camions ramassent les blessés et morts. Le champ de bataille doit rester propre. C'est une guerre propre. Les blessés iront soit dans les hôpitaux de campagne, soit ramenés sur le continent pour Ricain, et les morts, on les mettra à l'incinérateur, ou on les amènera pour Ricain qui sont encore en bon état. Tout est bien réglé. Il faut aussi se préserver des maladies vénériennes et du sida. Là, on a construit des bordels de filles qui viennent de France et interdiction d'avoir des rapports avec les gens du pays.
Non.
Il y a aussi d'autres maladies. La lèpre. Le choléra. La maladie du sommeil. Mais une équipe spéciale est là pour les protéger. Pour les protéger de la population. Et puis, protège aussi la population. Les soldats les protègent en leur donnant de vrais médicaments. Les autres leur donnent des calmants et des vaccinations fictives. Bien entendu, le même service s'occupe des soldats pour éviter d'attraper des maladies. Parce que l'on... vaccine avec des produits d'humilition. Mais là, juste pour les soldats. Tout ça, c'est une équipe scientifique Ricain qui s'occupe et leurs chercheurs qui ont trouvé des vaccins immunitaires. C'est Ricain qui cultive les vaccins immunitaires et les envoie en Afrique. Et envoie en Afrique même les virus du sida. Les vaccins immunitaires ne peuvent immuniser que les Occidentaux. il a été créé pour ça. Parce que le vaccin reconnaît, pour ainsi dire, la race de la personne auquel il a été mis. Et quelques rares villes sont en ruine. Même les mosquées. La population les ont abandonnées et sont partis se cacher dans la brousse. Les hommes sont retournés rejoindre l'armée terroriste. Les villes sont des villes mortes. Voilà l'Afrique que trouve Didier en arrivant. Il est surpris par la chaleur, le paysage désertique. Il était mis dans une armée d'infanterie. Comme il n'est pas formé, il est deuxième classe et ne servira pas pour les attaques stratégiques. Il a été muté près de la ville où est Georges, la ville fortifiée. Cette ville s'est fait appeler la Nouvelle Mecque. Et Genevois, dit Benani le Grand, joue le chef. S'est laissé pousser la barbe et s'habille comme eux. Se lave plus non plus. Didier, après avoir des difficultés à s'adapter, et à apprendre le maniement des armes et à être soldat donc pour se battre, etc. Et à envoyer avec les autres se battre. Et là, au début, il se trouve ahuri au milieu d'une cohue terrible, des gens qui se plaquent les uns contre les autres. Et qui se battent. Il est dégoûté par le sang, les corps qui tombent. Les membres, les têtes. Il est surpris des coups. La fumée, les cris. Le bruit effroyable, effrayant. La chaleur, oui, la chaleur est terrible. Et il voit les gens crier de douleur. Et Didier est au milieu de tout ça, terrorisé. Terrorisé par ce qu'il voit, par cette horreur, par ce sang qui coule, par ce... Par ses têtes qui tombent à coups de hachette. Il voit ses têtes et ses corps qui restent debout quelques secondes une fois que la tête a été tombée. Il tourne en rond, il ne sait plus. Il ne sait plus ce qu'il fait, où il est. Et il s'en fiche. Il cherche à se protéger. Il cherche à se protéger de cet enfer. Il commence à voir. Enfin, si on peut savoir, il y a des blancs et des noirs, bien sûr. Mais lui, il s'en fiche. Il se protège. La tête avec ses bras. Il regrette d'être venu. Oui, il regrette d'être venu. tout d'un coup, il voit face à lui un ennemi. Oui, un ennemi. Il est face à lui avec une hache. Guy tremble de peur, prend son fusil. Il a tiré. Oui. Il a tiré. Ça fait un bruit. Ce tir l'a fait reculer. Et c'est à cause de la force. Il voit son ennemi, auquel il a tiré, mort. Une balle dans le front. Didier tremblant. Parce qu'il a eu peur, très peur, mais heureux d'avoir sauvé sa vie, que m'a crié. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oui, il l'a eu. Alors, il se met à tirer. À tirer. Dans tous les sens, sans savoir ce qu'il fait, où il tire, où il tue, ou s'il blesse. Et s'il a tué quelqu'un, il ne sait pas s'il a tué un ennemi ou autre. Et ça dure, ça dure. Ça dure. Ça dure. Ça dure jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balle. Oui, ça a duré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balle. Furieux. Il ne sait que faire au milieu de la bataille, sans balle, sans défense. Un soldat le voit et lui crie « Prends des balles aux ennemis !» Didier se baisse et cherche des balles sur le corps. Ça le dégoûte, le sang le meurt. Il trouve des balles dans les ceintures, les musettes. Et quand il croit qu'il en a assez, il charge son fusil. C'est pas facile au milieu de la mêlée, de la fumée, de la peur d'être tué. Et puis, il y a des balles qui ne vont pas. Merde ! Quelle merde ! Il faut tuer pour se défendre et on n'a rien. Merde, merde, merde ! Enfin, son fusil est chargé. Il peut continuer à tuer. Et il continue à tuer comme ça, au hasard. Parce qu'il faut tuer. Tuer pour se sauver. Sauver sa peau. Ça dure, ça dure. Des heures et des heures. Où il pose son temps à tuer, à tirer et à chercher des balles. Parce qu'il n'y en a pas. Et le tout au milieu des cadavres, de la fumée. Des cris, c'est terrible. tout d'un coup, il ne sait pourquoi, il se retrouve, s'est retrouvé de plus en plus seul. Puis, plus rien. Au milieu d'un décor de cadavres, de blessés, les autres ont disparu. Et voit arriver des camions pour prendre les cadavres et les blessés. Il s'arrête de tirer. Il tirait machinalement comme un fou au hasard. C'est un décor de fin du monde. De la fumée, des ruines, des milliers de gens couchés sur le sol, morts ou blessés, des têtes, des bras, des jambes, des corps, du sol, le sang, la puanteur, à cause de la chaleur, la puanteur vient très vite. Des camions sortent des hommes qui prennent les morts ou les blessés pour les mettre au camion. De blessés. On entend les oiseaux de proie qui tournent dans le ciel, qui tournent dans le ciel. Parce qu'ils ont senti la nourriture. On entend le bruit des oiseaux de proie. De cet enfer, je ne sais plus où il en est. Un soldat qui ramasse ses corps pour une bombe. Que blessé. Non, le milieu. Eh bien, va retourner. Où est-elle? Tu dis, ils sont tous là-bas. Et Didier y va. Les camps. Les soldats sont couchés à terre, épuisés, sales, ont du sang sur leur visage et vêtements. Certains se lavent, nus, en s'aspergeant. D'un broc d'eau. Les autres mangent un morceau. Tout semble épuisé, il ne parle pas. Enfin, Didier retrouve sa compagnie. Il est épuisé. demande une gourde d'eau et pour se laver. Voit qu'il a du sang de partout. Ça le dégoûte. Puis, après s'être lavé, il va manger un morceau. À la cantine. C'est un camion où un soldat prépare les repas ponctuels. Les repas ponctuels sont déjà tout préparés, il ne reste plus qu'à les réchauffer pour certains et puis les autres à les refroidir. Après avoir mangé et puis épuisé, Didier est allé se coucher. Certains sont allés voir les putes de Paris. Didier se demande ce qu'il fait dans cet enfer. Les jours passent, jours de bataille passent, et petit à petit, Didier s'habitue à tout ça, à se battre, à la fumée, aux cadavres. Il a de moins en moins peur, parce que plus sûr de lui, et parce qu'il sait faire, prendre des balles sur les blessés, ou les morts, et ne plus avoir peur des cadavres. L'ennemi lui fait moins peur, parce qu'il les voit tomber, et lorsqu'il voit que les autres commencent se replier, il en fait autant. Il ne reste plus sur les champs de bataille seul au milieu des morts et des blessés. Il sait mieux connaître le danger et s'en protéger. Les jours passent. La première fois, il a eu corps à corps avec l'ennemi, il a été surpris. Il s'est trouvant devant un ennemi avec une hache à la main qui lui fait face. Et lui a perdu son fusil dans la mêlée. Il sort son poignard. Les deux hommes se font face. Il est très peur. Il se regarde, les yeux dans les yeux, s'observe, tourne. À force de faire attention, la force devient pour Didier un plaisir, un jeu. Pour cela,
je dois prévenir le camp qu'il va être attaqué.
Qui gagnera?
Robin est prisonnière, je voulais la sauver, mais il y a trop de vies qui sont en jeu.
Le jeu prend plus de place que la peur. L'excitation grandit. L'autre hésite à lui donner un coup de hache. Il y est recul. Fait des bons pour éviter de hache. C'est sans. Il ne sent plus la mort, mais son excitation, l'excitation du jeu. Didier passe son poignard d'une main à l'autre pour déconcentrer son adversaire. Puis, Didier recule un peu et fait un geste pour se retourner et faire tomber à terre son adversaire. L'adversaire a perdu sa hache. Didier est sur lui. Prêt à cogner. Il sait qu'il doit lui enfoncer le poignard dans son corps. L'autre a les yeux hagards et terrifiés. Didier le maintient bien avec ses jambes. Il se redresse.
Des munitions en échéant. On va te
contacter. Gardant ses jambes sur lui. Et d'un geste mystérieux, il enfonce son poignard dans la poitrine. L'autre est mort.
Je dois venir quand il va être attaqué.
Le sang a giflé son guidier. Mais il est victorieux. Oui, Didier est victorieux, il est fier. Et il se sent mieux. Il se sent fort et prêt à recommencer. Il y a fait une fois, il est arrivé une fois, donc il peut recommencer à tuer avec son poignard. Didier est devenu un bon guerrier en s'adaptant au milieu d'un champ de bataille, en sachant se battre. Il est fier, il se dit qu'il est un homme. Désormais, il se bat comme un lion pour gagner, tuer le plus possible. Il y arrive. Il y arrive parce qu'il a vaincu sa peur qui a été remplacée par une jouissance. Les jours passent. Malgré les morts, l'on fait du surplace. Didier est devenu sûr de lui. Il se dit qu'il faut faire avancer les choses. Mais comment ? Il se dit qu'il faut faire que pour la ville de Troyes, entrer dans la ville pour ouvrir les portes à l'armée. Il se dit, c'est moi qui le ferai. Mais comment entrer dans cette ville?
Je dois prévenir le camp qui va être.
Il a une idée. Il va se mettre sous le char et entrer comme ça dans la ville. Du lendemain, il cherche les chars ennemis, en voit qui sont près de la ville, et se dit qu'ils sont peut-être là parce qu'on doit les protéger, donc ils ne bougeront pas de leur coin. Lui non plus ne bougera pas. Et le soir, ils sont entrés. Lui en rentrera avec les autres. les choses. Se passe comme il a prévu. Reste près de l'entrée de la ville. Jardinier décide de durant toute la bataille de surveiller un char. Et dès qu'il voit que la bataille va se terminer, pour aujourd'hui, il s'approchera de l'intention du char. C'est bientôt la fin de la bataille. Il s'approche en faisant très attention du char et en rampant pour ne pas être vu. De toute façon, à la fin de chaque bataille, il y a tellement de blessés, de cadavres, qu'on ne voit rien. Je ne vois pas un homme rampé. Surtout lorsqu'il y a de la fumée. Il arrive sans encombre devant le char, se faufile derrière et une fois derrière, glisse dessous le char, le monstre. Il est assez rehaussé parce que les roues sont très hautes. Il y a de la place en hauteur comme en longueur. Sous le char, il y a des barres de fer qui tiennent les roues, etc. Elles sont grosses. Et un espace entre elles. Un espace entre elles et le dessous du char. Qui s'agrippe aux barres avec ses deux mains. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Guerre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.